Bonsoir Lorraine Fouché, bonsoir Héloïse Dormesson, bienvenue à la station Ozone de la librairie Mola.
Bonsoir, merci.
Bonsoir.
C'est une rencontre un peu particulière, puisque c'est un anniversaire. Quel rapport vous avez aux anniversaires, toutes les deux? Est-ce que vous aimez ça?
Alors, moi j'adore, je suis née en octobre, Héloïse aussi, donc nos anniversaires sont proches. Je trouve ça extraordinaire. Donc, cette année, ce sont les 20 ans des éditions Héloïse d'Ormesson. Moi, j'ai 20 ans à chaque anniversaire.
Alors, moi, je suis beaucoup moins anniversaire. Mais celui de la maison, je suis très, très, très heureuse de le fêter. Là, les 20 ans de la maison. Et je préfère fêter les anniversaires des autres que le mien. Moi, ça me... Là, je suis complètement indifférente à ces événements. Mais alors, c'est aussi assez culturel, je crois. Dans la famille, on n'est pas très anniversaire. Je vis avec un homme qui est très anniversaire. Oui, je pense que ça dépend aussi de la manière dont ça a été fêté quand on était enfant. Non pas qu'on m'ait privé de gâteau d'anniversaire, mais alors, non, je suis pas passionnée par les anniversaires.
Et alors, est-ce que vous vous souvenez du premier jour? La première journée que vous avez passée aux éditions Héloïse d'Ormesson.
Alors, je me souviens du jour, parce que après, du jour où j'ai su que ça allait être possible, parce que on avait ce projet, parce que j'ai fondé les éditions Héloïse d'Ormesson avec Gilles Cohen-Solal, qui est mon compagnon, qui donc aime fêter les anniversaires, lui, mais qui, vous voyez, n'est pas là aujourd'hui. Il fallait quand même qu'il y ait un certain nombre de conditions. Les conditions, c'était quand même des questions financières et des questions... donc, il fallait trouver une banque qui accepte de nous financer. Et il fallait trouver un diffuseur-distributeur, parce que le nerf de la guerre dans l'édition, c'est d'avoir un diffuseur-distributeur. Et ce sont deux choses qui ne sont pas si aisées à obtenir, mais que nous avons obtenues. Et quand le jour où nous sommes allés voir le diffuseur-distributeur et qu'il nous a, on avait fait un plan de trésorerie, enfin on était arrivé tout à fait, avec les documents qu'il fallait. Ça faisait des mois qu'ils étudiaient la chose, mais on a su toute fin août que ça y est, ils acceptaient de nous diffuser, de nous distribuer, donc c'était les éditions allaient être viables. Là, ça a été une euphorie totale, parce qu'on avait commencé, on était sur le point d'acheter des livres, mais évidemment, on n'osait pas encore les acheter, donc j'ai pu rappeler un certain nombre d'agents, d'auteurs, pour leur confirmer qu'on allait signer des contrats. Et j'ai désespérément cherché une chambre pour la foire de Francfort, qui est vraiment le rendez-vous annuel de l'international dans l'édition. Et quand on ne réserve pas une chambre d'une année sur l'autre, ou en tout cas à l'époque, on est très, très, très embêté, ce qui était notre cas. Mais on a fini par trouver une chambre. Mais ça, c'est une autre histoire.
Et alors justement, vous évoquiez ce sujet-là. Le lien entre l'éditeur et l'auteur, il est aussi commercial. En réalité, c'est un drôle de lien. C'est un lien de couple qui a plusieurs ressorts. Il y a des ressorts intellectuels, des ressorts amicaux, sinon ça ne marche pas très bien. Il faut aimer parler, parce qu'il y a beaucoup d'échanges quand même autour de l'écriture. En même temps, il y a un lien commercial. Et puis, il y a une relation qui se construit au gré des succès et des échecs. Et donc, comment vous qualifieriez ce lien ?
En général ou en particulier ? Non, particulier.
Je vous laisse répondre comme vous voulez.
Alors, je crois que L'écriture est une île est mon 25e livre. J'ai eu d'autres éditeurs. Héloïse est ma seule éditrice amie. Alors, j'avais envie de bondir sur commercial parce que c'est financier, mais pas commercial. C'est-à-dire, il y a des finances, il y a de l'argent qui rentre en jeu, mais ce n'est pas commercial, ou en tout cas, ils ne nous le font pas sentir. Quand on écrit des livres, on a envie d'être aimé, on a envie d'être lu, et puis on a envie d'être aimé. Et l'éditeur est la première personne qui va dire « J'aime votre livre et je roule pour vous ». Alors, j'ai commencé, moi, chez « J'ai lu ». Après, J'ai lu était un poche qui allait avec Flammarion. Donc, j'ai été éditée chez Flammarion. Et là, j'ai rencontré Héloïse. Héloïse était mon éditrice chez Flammarion. Héloïse est partie après de chez Flammarion, chez De Noël, où je l'ai suivie. Et puis, les livres que j'écrivais ne correspondaient pas vraiment à la ligne éditoriale, le genre de livre qu'écrivait De Noël. Donc, je suis partie chez Robert Laffont. Héloïse, après, a fondé les éditions Héloïse d'Ormesson. Et il y a eu cette drôle de chose où donc on restait amis dans les salons du livre. J'en ai pour 3 minutes, hein, je suis dans mon histoire là.
Prenez votre temps, on a tout le temps qu'il faut.
Dans les salons du livre, il y avait des camarades avec leurs éditeurs très sérieux. Et la table, Héloïse d'Ormesson, au dîner, c'était toujours la fête. Et on était là, on se disait, ils ont l'air bien, donc on venait, on nous offrait à boire, on était contents, on voyait que les auteurs étaient heureux. Et puis, une année, j'ai écrit un livre sur mon père qui s'appelait « J'ai rendez-vous avec toi ». Et donc, Héloïse et Gilles m'avaient dit, tu es la bienvenue chez nous quand tu le veux. Et moi, je suis fidèle. Donc, j'avais dit, mais avec grand plaisir, mais quand mon éditeur chez Laffont prendra sa retraite, parce que j'aime pas, voilà, quand on roule pour vous, j'aime pas dire, moi je m'en vais, j'ai mieux ailleurs. Mais bon, j'étais contente de cette possibilité. Et puis, j'écris ce livre, je mets 2 ans pour l'écrire, j'y mets mes joies, mais j'y mets mes peines, comme Johnny. Je propose le livre à une éditrice dont je ne dirai pas le nom. Il faut toujours dire du bien des gens, en les nommant, et du mal en ne les nommant pas. Donc, je propose à une éditrice chez Robert Laffont qui lit le livre et me dit « Il est bien votre... » Il n'y a pas d'enfant, non, il n'y a pas d'enfant dans cette salle. « Il est bien votre livre, mais... » Alors d'abord, Félicité Herzog a écrit un livre sur son père, Maurice Herzog. Elle en fait un salaud. Les salauds, ça se vend bien. Votre père est un héros. Donc, ça se vend moins bien. Je lui dis, bah oui, mais enfin, je ne vais pas en faire un salaud. Alors, vous verrez pourquoi j'ai demandé pas d'enfant. Elle me dit, mais est-ce que vous pourriez mettre du cul parce que Alain Pompidou, le fils de Georges Pompidou, a publié les lettres de son père, il y avait le cul, ça se vend. J'ai dit, c'est mon père, je ne peux pas mettre du cul. Et bon, et alors elle m'a dit, évidemment, ça va se vendre beaucoup moins bien qu'un roman. Donc, j'étais très triste. Et puis, j'ai dîné avec mon amie Anne Goscinny. Et je raconte ça. Elle avait lu des extraits. Elle dit, mais c'est trop bête. Et donc, elle a fait passer le livre à Gilles Cohen-Solal et Héloïse, qui m'a dit quelques jours après, évidemment, ça se vend moins bien. Les récits se vendent moins bien qu'un roman. Mais c'est un beau livre et je serais honorée de le publier. Et donc, où Héloïse ira, j'irai toute ma vie. Voilà.
Donc c'est un lien, en fait, presque fraternel, c'est ça que vous êtes en train de raconter?
C'est en tout cas un lien affectif, un lien de gratitude, de respect, et un lien joyeux, parce qu'au cours des années, ça doit être mon 10e livre. Ah oui, non, aux éditions Héloïse d'Ormesson, le 10e.
Oui.
On a traversé des joies, des peines, le départ de ton père, le départ de ma mère, des choses et des... Et puis beaucoup de fêtes et des livres. Et oui, ce sont des couples de papier.
Alors, pour rebondir sur votre question, Sylvie, justement, je pense que Lorraine, qui a répondu non, ce ne sont pas des relations commerciales. Finalement, chez Laffont, quand elle a présenté ce livre, sans le refuser, ils ont été quand même très, très réservés parce qu'ils se sont dit, commercialement, ça risque de ne pas marcher. Donc, effectivement, la dimension commerciale n'est pas inexistante et c'est pas neutre. Il se trouve que toi, Lorraine, et ça, c'est assez rare, évidemment, tu souhaites être lu, tu penses à tes lecteurs, tu ne m'appelles pas tous les soirs pour savoir quand on vient de publier ton livre, pour savoir quels sont les chiffres. Tu es pas accro aux chiffres. Il y a plein d'auteurs qui sont accros aux chiffres. Et ça, c'est toujours très compliqué à gérer parce que l'auteur qui est accro aux chiffres, il va essayer de se renseigner, il ne va pas forcément avoir les bonnes sources. Enfin bon, bref, ça peut être compliqué. Mais je dirais que donc, ce n'est pas, c'est une dimension. Ce n'est pas la seule, mais c'est une dimension. Je trouve que notre relation est quand même assez représentative ou en tout cas intéressante pour illustrer la relation auteur-éditeur, puisque donc Lorraine a d'abord publié en poche, comme elle vous l'a expliqué, chez J'ai lu. Chez J'ai lu, qui travaillait très bien avec nous, le grand format, ils nous ont dit c'est quand même un auteur prometteur, c'est dommage qu'on la publie en poche directement, reprenez-la en grand format. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On a publié 3 livres à ce moment-là chez Flammarion, et puis en effet, j'ai quitté Flammarion pour aller chez De Noël. Et là, Lorraine m'a suivi, ce qui a été parce que j'ai quitté Flammarion en très bons termes, donc je ne voulais pas entraîner les auteurs que je publiais chez De Noël. Je trouvais que c'était pas que ce n'était pas fair play et que Flammarion avait été la maison qui m'avait fait grandir, dans laquelle j'avais appris mon métier. Donc je trouvais pas que ça chic de leur piquer des auteurs qui avaient débuté chez eux. Mais bon, évidemment, quand l'auteur insiste, ce qui était le cas de Lorraine, et que ça nous fait vraiment plaisir, bon. Lorraine m'a suivi chez De Noël, mais en effet, chez De Noël, à l'époque, on publiait des textes qui étaient Sex, Drugs, Rock and Roll, le fameux cul que certains auraient préféré voir dans J'ai rendez-vous avec toi. Et tes romans ne correspondaient pas à l'esprit des titres qu'on publiait dans la maison. Et là, il s'est produit quelque chose qui est très, très rare, c'est-à-dire que après cette première publication du Talisman de la Félicité, dans mon souvenir, je crois que c'était le Talisman, ou le Phare de Zanzibar. Ah bon, en tout cas, d'un roman, on en a discuté et on était d'accord. J'ai dit à Lorraine, je pense que vraiment, tu réussiras mieux, on te développera mieux. Il faut que tu trouves un autre éditeur. Je pense qu'on ne te rend pas service. En ce moment, avec l'image de Noël, ça ne correspond pas. On ne te rend pas service. Et toi-même, tu avais fait le même constat. Donc, on était suffisamment proches pour pouvoir, toutes les deux, sans amertume et sans friction, se quitter. Parce que c'était quand même une... Et en se disant que la vie ferait peut-être qu'on se retrouverait. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, en effet, c'est assez rare. Et je pense qu'on a aussi cette relation, mais parce que tu es quelqu'un, probablement, c'est le médecin en toi. Enfin, t'as un certain recul et tu n'as pas la sensibilité à fleur de peau qu'ont certains auteurs par rapport à leur destinée commerciale, justement. Tu as une certaine évidemment tu ne souhaites qu'une chose, c'est que tes livres marchent, mais tu nous en tiens pas grief si ça n'était pas le cas.
C'est-à-dire ça marche bien chez toi surtout.
Et puis il est vrai que après J'ai rendez-vous avec toi, qui s'est tout à fait correctement vendu et qui a eu en tout cas un très 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 bel accueil, enfin qui a été une publication, je pense, qui nous a plu à l'une comme à l'autre, enfin tu nous as confié un roman qui s'appelle Entre ciel et loup, et là ça a été je dirais la récompense de l'amitié d'une certaine façon, ou d'une parce que c'est un livre qui a très 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 bien marché et qui a non seulement très bien marché en France, mais qu'on a très bien vendu dans 15-16 pays et qu'on a aussi vendu en Allemagne. En Allemagne, je pense que l'édition... Il y avait 25 éditeurs allemands qui ont voulu acheter ce livre. C'est moi, c'est inédit. Ça, c'est, on a très, très bien vendu certains de nos livres à l'étranger. Mais jamais j'avais imaginé des enchères avec 25 éditeurs. Vous savez que ça va monter, que le livre va évidemment...
Ouais, c'était, là, c'était commercial, là, mais c'était bien. C'était pas moi, c'était eux.
Mais c'était, bon, cette publication a été quand même assez... parce qu'on s'attendait à un succès. Mais ça a été très, très, très au-delà de nos espérances. Et à partir de là, tu as eu une sorte de nouvelle vie, enfin, des lectrices qui t'ont découvert alors que tu avais déjà une dizaine de livres à ton actif. Donc, c'est quand même une histoire, notre relation.
En fait, on ne sait jamais. C'est ça, la chose. Le bon moment au bon endroit.
On parlait d'une alchimie qui, tout d'un coup, peut aller au succès dans plein de sens.
Absolument, absolument.
Il y a aussi une histoire de protection quand je vous entends parler, Loïse d'Ormesson, d'un auteur. Il y a quelque chose où il faut l'accompagner, le rassurer. Alors, peut-être pas spécifiquement avec Lorraine, qui a l'air d'être très autonome sur ce terrain. Mais en tout cas, il y a cette dimension chez l'éditeur.
Ah oui, certainement. Parce que c'est quand même, pour tout auteur, c'est un accouchement. Remettre son texte, c'est quand même des mois, sinon des années de travail. Et c'est vraiment, je veux dire, l'auteur, il vous remet ses tripes, d'une certaine façon. Et quand on va travailler ensemble, alors là encore, les réactions et les attitudes diffèrent selon les auteurs, mais il y a des auteurs pour lesquels on sent que rationnellement, ils entendent, ils écoutent, mais ça leur coûte. C'est-à-dire que couper une phrase... alors, Lorraine est beaucoup plus... Lorraine, ça, on pourra vous raconter. Elle écrit certains passages en sachant qu'on va lui conseiller de les supprimer. Mais je dirais que c'est plus ludique que de nombreux auteurs. Et c'est, mais pour certains auteurs, même s'ils finissent par accepter les suggestions, ça peut être très douloureux. Et donc, tout le travail de l'éditeur, c'est de ménager l'auteur. Enfin, c'est quand même un. Oui, il y a beaucoup de psychologie. C'est d'arriver à, je dirais, à pas dompter, mais à faire en sorte que l'auteur comprenne qu'effectivement, c'est pour le bien de son texte et à l'amener à accepter un certain nombre de corrections qui sont pas toujours évidentes.
Un juste équilibre entre être un psy et être un diplomate.
Oui, convaincre, c'est convaincre le mot que tu cherchais.
Oui, non, c'était plus, non, c'était pas dompter, c'est quand on. Bon, bref, je le trouve.
Apprivoiser.
Je le trouve apprivoisé. Apprivoiser. Il faut Bravo. Apprivoiser l'auteur.
Et alors vous écrivez des passages exprès en fait pourquoi pour voir si l'éditeur suit.
C'est pas complètement ça. C'est j'écris les passages qui me plaisent en sachant que probablement. L'éditrice, alors j'ai l'éditrice, la grande chef, c'est Héloïse. Et puis, il y a au sein des éditions Héloïse d'Ormesson, Roxane, qui est l'éditrice avec un petit E, c'est-à-dire la personne qui travaille sur les textes, supervisée elle-même par Héloïse. Mais ça, on a le résultat des deux. Mais je sais que... Alors, c'est vrai, le fait d'avoir été urgentiste fait que j'ai une certaine diplomatie. Et je sais qu'il y a des choses auxquelles je tiens. Et des choses, j'ai envie de les écrire. Et en les écrivant, je me dis... Elle ne va pas me les sucrer, parce que ça ne se passe pas comme ça. Ce sont des suggestions. On peut dire, ah non, 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 vous touchez à rien. Enfin, si on touche à rien... On écrit pour sa petite sœur ou sa meilleure amie des polycopiés. Donc à partir du moment où on veut être publié, c'est que on raconte une histoire. Et puis il y a des personnes qui savent mieux que vous comment faire pour donner une jolie couverture, comment faire pour faire la quatrième de couverture, c'est-à-dire le résumé au dos du texte. Et puis pourquoi ceci ou cela sera mieux. Mais mon exemple. Mon exemple.
Oui,
je me fais un petit plaisir parce que c'est la première fois, mais la première fois que je vois ça.
Ah bon? Tu l'avais pas?
Mais où veux-tu que je l'ai vu?
Je pensais parce que c'est le prochain.
C'est mon livre qui sort le 3 avril, et donc ça s'appelle Les Épreuves, mais je les ai jamais vues moi. Donc voilà. Donc merci de voilà. Et alors donc la première phrase maintenant. Maintenant, je ne la connais même pas, voilà. Le train qui nous intéresse quittera Paris vendredi à 12h40 et roulera en direction de la Bretagne. Bon, c'est très joli, c'est très... Voilà, c'est ma première phrase. Moi...
L'incipit.
J'avais l'incipit.
Est-ce que ça s'appelle l'incipit, de même que la dernière s'appelle l'excipit.
Voilà. Et c'est dans L'écriture est une île, on raconte ça. Mais moi, j'avais imaginé une première phrase qui est « Le train qui nous intéresse fonçait tranquillou-bilou vers la Bretagne ». Ben voilà, c'est très joli, tranquillou-bilou. Et dans un salon du livre à Morges, en Suisse, devant le lac Léman, sous une tente berbère, au mois de septembre, j'avais une rencontre, comme ça, un petit déjeuner. Et Héloïse n'était pas là, elle s'occupait d'une autre romancière. Et on parle des incipits. Et je leur dis, voilà, par exemple, mon prochain incipit, c'est nanana avec tranquillou-bilou. Et je leur dis, mais je crains que mon éditrice n'aime pas. Et je n'avais absolument pas vu arriver Héloïse. Et j'ai entendu une voix.
Oui, je l'ai dit, oui, mais c'est probable.
Voilà. Donc les éditeurs ne sont pas drastiques et ne caviardent pas. Mais de temps en temps, par exemple, je savais que tranquillou-bilou ne passerait pas. J'ai essayé, ça n'a pas marché.
Et effectivement, parce que vous revenez sur ce livre donc, qui s'appelle « L'écriture est une île », dans lequel vous revenez sur ce travail d'écriture. Vous le disiez tout à l'heure, Élise d'Ormesson, il y a quand même une certaine tension dans le lien entre l'éditeur et l'auteur, déjà parce qu'il y a une certaine tension de toute façon à écrire, premièrement, et à publier, deuxièmement, on pourrait le dire comme ça. Et cette tension, vous en parlez très très bien dans ce livre, qui raconte une autrice qui doit animer un atelier d'écriture avec 8 personnes. Je fais une petite parenthèse, j'ai été surprise, puisqu'il s'agit plus d'hommes que de femmes dans cet atelier d'écriture.
Mais c'est vrai. Alors, en fait, j'avais animé, moi, un atelier d'écriture au Figaro 2 ans avant. Et là, il y avait autant d'hommes que de femmes. Mais
c'est le cas. Souvent, il y a plus d'hommes que de femmes. Ça, c'est vraiment une surprise.
Alors, ce qui est extraordinaire, quand j'étais médecin, je ne choisissais pas du tout les patients ni les pathologies. Maintenant, je fais ce que je veux. Dans les livres, tout est possible.
Mais quand vous animez des ateliers d'écriture, est-ce que vous avez plus facilement des hommes ou des...
Non, là, c'était pareil. Dans le mien, celui que j'ai animé en vrai, il y avait la même chose. Mais ce qui était très drôle, c'est qu'ils s'étaient placés. Il y avait les messieurs d'un côté et les dames de l'autre, alors qu'ils ne se connaissaient pas. C'est comme à la messe dans les temps passés.
Dire, la synagogue.
Les garçons et les filles.
Et alors, cette peur, il faut quoi ? Il faut être joueur, avoir le sens du risque. Il faut justement...
Pour écrire ?
Oui.
Ah, je crois qu'il faut être fou. Vraiment, il faut être fou. Il faut avoir un rêve, avoir raconté des histoires quand on était petit, ou bien... Moi, par exemple, j'étais fille unique. Je m'embêtais à la maison, donc je lisais tout le temps. Et quand j'avais fini de lire mes livres de la Bibliothèque verte, j'écrivais la suite. Donc, moi, mon rapport au monde passait par l'écriture. Quand j'avais 7 ans, je disais, je serai écrivain, vous avez un feu sur la langue. Vous avez parlé tout à l'heure de l'harmonie ou l'atmosphère. La phrase des éditions Héloïse d'Ormesson, il y a 20 ans, donc, c'était « La petite maison qui a tout d'une grande ». Et je ne suis pas du tout payée par mon éditrice pour dire du bien d'elle. Ça ne marchera pas. J'ai eu des dunes blanches, mais enfin, voilà. Ça n'ira pas plus loin. Mais... Offerte par Mola, en plus. Mais une chose est vraie, c'est que ce que j'aime dans cette édition, c'est qu'on a tous, qu'on vende beaucoup de livres ou qu'on vende peu de livres, on a tous l'impression d'être attendus, d'être aimés, qu'on roule pour vous, qu'on met la patate pour vous, et c'est familial, c'est-à-dire on est amis ou copains, ou en tout cas, il y a une solidarité, il y a une fraternité, il y a un truc.
Ça aide à dépasser la peur ?
Ouais, parce qu'on a la même chose, parce que tous, quand on a remis nos livres, on commence à pas dormir en se disant peut-être c'est une daube totale. Déjà, quand on écrit, il y a des jours où on se dit « j'y arrive, ce que j'ai voulu mettre », et d'autres jours où on se dit « mais dans le monde difficile où on vit », dépenser 21 € pour un livre ou 8,70 € pour un livre de poche, mais c'est complètement fou. Ce sont que des personnages de papier. C'est rien. Et pourquoi est-ce que moi, j'aurais l'arrogance de penser que ça vaut de dépenser de l'argent, de dépenser du temps ? C'est dingue.
que des doutes, en fait, c'est ça ?
Oui, mais je pense que ça, c'est un auteur qui doute pas, c'est un peu comme un acteur qui n'a pas le trac. Je pense que c'est inhérent à la création. Moi, je ne connais pas d'auteur, et j'en ai rencontré quand même un certain nombre, et côtoyé aussi un certain nombre que je n'ai pas nécessairement publié. Moi, je ne connais pas d'auteur qui n'est pas... Il y a nécessairement un moment, un trouble, une incertitude. Je pense que ça procède... Enfin, c'est impossible. Ou alors, c'est quelqu'un qui est... Enfin, je ne sais pas. Ça me paraît, encore une fois, impossible. Parce que le doute, il peut procéder de... pas mal de choses. Est-ce que mon livre est réussi ? Est-ce que, même si je suis convaincue que mon livre est réussi, est-ce qu'il va trouver le public ? Est-ce qu'il va rencontrer le public ? Parce que je suis allée beaucoup plus loin que ce que j'avais fait jusque-là. J'ai pris un certain nombre de risques. C'est très différent, mais en tout cas, c'est sûrement des moments de grande incertitude et de grands troubles, oui.
Et vous, votre peur, c'est quoi ? C'est de ne pas trouver le moyen d'apaiser ce doute ?
Alors, peur, il n'y a pas exactement de peur, mais ce qui est à chaque fois... il y a d'abord la première inquiétude, c'est de, quand on aime un auteur, qu'on l'accompagne, et que c'est de ne pas aimer son livre. Ça peut arriver. Il m'est arrivé, heureusement ça n'arrive pas souvent, mais j'ai déjà refusé des livres d'auteurs dont on avait publié un certain nombre de livres. En général, les auteurs sont revenus après, on a refusé un texte. Mais bon, il faut savoir, quand on n'adhère pas à un livre, c'est tellement difficile de défendre des livres que si on n'adhère pas complètement et si on n'est pas convaincu que le livre est bon, là, il faut pas se lancer. Donc, la première, peut-être pas peur, mais si, quand même, une sorte d'inquiétude, c'est de ne pas aimer le livre. Encore une fois, heureusement, ça n'arrive pas souvent. Mais ça...
C'est terrifiant, c'est absolument terrifiant, mais c'est vrai.
Mais alors, effectivement, alors là encore, l'auteur doute quand il nous remet son texte, et puis il est, mais comme ça, en attendant, systématiquement. En attendant qu'on le rappelle et qu'on lui parle de son livre. Parce qu'encore une fois, tant qu'on ne l'a pas lu et qu'on n'a pas rassuré et confirmé qu'effectivement c'était un bon livre, voilà. Après ça, la deuxième difficulté, c'est comment va-t-on l'amener vers ses lecteurs ? Parce que même si on a déjà réussi à amener le livre... les précédents livres de l'auteur vers le lecteur, c'est jamais garanti. Là, tout à l'heure, dans le train, Lorraine m'a parlé de son prochain roman, de celui qu'elle n'a pas encore écrit et qu'elle publiera
en 2026. Le roman 2026.
Mais donc là, ça prête à paraître « Aller simple pour la joie » en avril, tout début avril. Tout est réuni pour que ce livre marche. De livre en livre, on vend mieux Lorraine. Tout est réuni, la couverture est magnifique. Le titre, Aller simple pour la joie, qui est-ce qui n'a pas envie de s'embarquer et de prendre cet aller simple pour la joie. Donc je suis très confiante.
Tu es tranquillou-bilou, voilà ce que tu es.
Je suis tranquillou-bilou, mais je sais aussi que la conjoncture peut faire que quoi qu'il arrive. Alors, on avait publié À l'adresse du bonheur en plein début de la guerre d'Ukraine. C'était l'Ukraine, non ?
Non, j'aurais dit que c'était...
Moi, je crois que c'était l'Ukraine.
D'accord.
Et donc, là, tout d'un coup, les livres ne se sont plus vendus brutalement parce que tout le monde était saisi, interdit à cause de cette guerre en Europe qui nous a tous sidérés. Tout s'est un peu arrêté, mais nous avons réussi à l'adresse du bonheur, évidemment... Je pense qu'on avait aussi besoin de s'oxygéner l'esprit, de partir. Donc, le livre a marché. Mais bon, ce genre de circonstances, ça peut avoir une incidence catastrophique. Après ça, il y a aussi les livres qui paraissent au même moment. Et tout d'un coup, il y a un livre qui peut complètement éclipser le vôtre. Parce que le vôtre, celui que vous publiez. Parce que le sujet, les deux sujets se ressemblent et qu'il y a un auteur qui va prendre l'ascendant et vous n'y pouvez rien. Ou on va tomber dans une période où on a besoin de gaieté ou au contraire besoin de sérieux. Et donc, tout d'un coup, le livre qui est parfait, abouti, réussi, ben, il ne correspond plus à l'esprit de l'époque ou à l'air du temps.
Et les élections, il y a les élections aussi.
Il y a aussi des... Oui, mais ça, on le sait, donc on prend. Mais enfin voilà, donc ça, c'est notre inquiétude. C'est notre... pour chaque livre, c'est est-ce qu'on va parvenir à le défendre comme on souhaiterait le défendre et à lui faire rencontrer le public auquel il est destiné.
Il faut aimer le risque, hein, quand même. Il faut aimer vivre sur un fil.
En fait, c'est une partie. Tu dis que la vie est une partie de Scrabble, mais l'édition aussi. C'est beaucoup de prise de risque. Moi, je sais que les plus belles aventures, d'une certaine façon, ou en tout cas les grandes réussites de la maison, ça a été quand on a vraiment pris des risques en publiant un livre qui faisait 1100 pages, ce qui paraît pas très raisonnable, ou des livres qui ont des compositions tout à fait particulières, qui coûtent une fortune à fabriquer, qui sont... c'est quand même assez hasardeux, et ça marche quand même. Enfin bon, la prise de risque, en général, elle est couronnée de succès. Voilà. Mais il y a aussi un facteur chance. Et ça, on ne le maîtrise pas du tout.
Un profil particulier, quand même, d'être éditeur. Parce que ça veut dire qu'il faut remettre en jeu tous les jours. Quoi. Faut être joueur ?
Bah, il faut être joueur, mais c'est aussi, ça fait partie du sel et ça fait partie des joies de ce métier, parce que c'est vraiment pas un métier dans lequel il y a de la monotonie ou ça ronronne. Enfin bon, c'est un métier de passion et tous les jours, on a l'occasion de s'emballer, de se passionner et il n'y a aucune garantie. Enfin voilà, ça n'est pas de monotonie.
Lorraine disait tout à l'heure que petite, elle terminait les histoires. Vous avez toujours su que vous feriez ça, Héloïse d'Ormesson ?
Oui, mais alors là, bon, on va pas, on rentre sur un volet psychanalytique. Quand vous disiez, vous entourez les auteurs, vous les accompagnez, peut-être que Lorraine le disait aussi. Je pense que c'est, alors d'une part, je pense que quand on a des points, il faut toujours cultiver ses points forts et pas essayer de lutter contre ses points faibles. Bon, l'un des points forts de la maison, c'est d'être convivial, c'est d'être une maison chaleureuse, c'est qu'il y a effectivement une atmosphère de maison, de famille, d'une certaine façon, et pas, on n'est pas une entreprise d'édition. Et face à certaines grosses structures qui sont des entreprises d'édition qui réussissent parfaitement, qui sont des vraies machines à succès, nous, on peut pas lutter parce qu'on n'a pas les mêmes budgets, pas la même taille. Mais en revanche, sur la convivialité, la chaleur, l'esprit, là, je pense que ça, c'est toujours assez fort. Mais évidemment, le fait d'être la fille d'un écrivain et d'un écrivain qui aimait beaucoup la lecture et les livres, parce que il y a des écrivains qui sont... Tous les écrivains lisent, mais ils ne parlent pas forcément de leur coup de cœur, ils ne sont pas... Bon, dans le cas de mon père, il lisait énormément et il adorait parler de ses coups de cœur et de ses lectures. Donc, il m'a très tôt parlé de ses coups de cœur et de ses lectures. Et puis, la maison était une grande bibliothèque. Je veux dire, il n'y avait pas un mur. Il n'y a toujours pas un mur, parce que ma mère vit toujours dans cette maison. Il n'y a pas un mur sans une bibliothèque. Donc, pour moi, le foyer, c'est une bibliothèque. Donc, les livres sont devenus très, très tôt des talismans. C'est-à-dire, je ne me sens pas très bien si je ne suis pas entourée de livres. Si je pouvais... m'installer à lit chez Mollard, je serais très 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 très, très heureuse qu'il prenne garde. Il est certain que ce métier, c'est une vocation très 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 précoce. J'ai toujours voulu. Alors, à l'époque, quand j'étais enfant, je disais faire des livres. Je ne savais pas du tout ce que ça représentait comme réalité. Je ne savais pas par quoi ça passait. Mais en effet, dès l'âge de 6-7 ans, j'ai voulu être éditrice. Et évidemment, je pense que j'aime, à travers les auteurs, j'aime mon père et inversement. C'est-à-dire que, donc, ça, c'est, Ça, c'est tout à fait particulier à mon histoire personnelle.
Et alors, dans ce livre, donc L'écriture est une île, Lorraine Fouché, qui est quand même vraiment parfaitement adéquate à la conversation que nous avons, vous revenez justement sur voilà, le fait d'écrire. Et finalement, dans votre livre, on voit bien qu'il faut, avec son éditeur, avoir une grande confiance parce qu'il est quand même, comme vous le disiez tout à l'heure, question de livrer ses tripes, mais il est question de la pudeur, c'est-à-dire de ce qu'on raconte de soi, même entre les lignes.
Oui, parce que même on a l'impression d'inventer toujours. Et quand on rencontre après les lecteurs et que les lecteurs souvent, moi, me parlent de leur histoire et je m'aperçois que j'ai la même. Bien sûr, on écrit que à partir de. Je crois que c'est Charles Juliet qui disait écrivez à partir de votre propre fond. Là, dans le livre, Alix, la romancière, dit aux membres de son atelier d'écriture toutes les histoires ont déjà été écrites, toutes, ok.
Mais pas la vôtre.
Mais pas par vous. Votre voix à vous est unique, alors allez-y. Et quand je vois des gens qui me disent je veux, en effet, je veux écrire, qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce qu'il faut ? Je dis ben, il faut y aller. Il faut un ordinateur ou bien un cahier, un crayon, et puis il faut vous lancer. Et il faut écrire comme vous raconteriez l'histoire à un ami. Il faut des heures et des heures et qu'il y ait une histoire. Mais c'est tout. Mais votre voix est unique, donc il n'y a pas... S'il y avait un truc pour écrire un best-seller en disant... Quand on fait un devoir de philo en terminale, on vous dit à peu près thèse, antithèse, synthèse... Mais là, il n'y a pas... Il y a juste ce colleté... au papier, et puis à un moment, proposer ses rêves, ses folies, ses rires, ses larmes, tout ce que vous voulez, à quelqu'un comme Héloïse, dont c'est le métier d'en faire éventuellement un bateau qui va naviguer vers les gens.
Vous allez même plus loin que ça, parce que votre personnage dit, alors, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, et puis en fait, à un moment donné, dit, et puis surtout, il faudrait ne pas respecter ce que je vous dis.
Exactement, exactement. Il y a pas de truc. Il y a l'imagination, il y a raconter, il y a oser raconter. Il faut quand même... J'ai travaillé un moment, j'ai eu une éditrice avant Héloïse qui était Françoise Verny. Et elle disait... Alors, cette citation, il y a plein de gens, mais je crois vraiment que c'est Françoise. Et elle disait, un livre, c'est facile, c'est une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire. Alors après, j'ai lu que Lino Ventura l'avait dit, enfin, bref. Mais elle le répétait. Mais en fait, c'est ça, c'est une histoire. Alors, il y a certains auteurs, par exemple, mon ami Grégoire Delacour, quand je lis une page de lui, je trouve que les phrases sont tellement belles, tout est tellement ciselé, tout est tellement à l'os, comme ça. Il n'y a pas un mot de trop. C'est beau parce que le texte est beau. Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. C'est qu'on ait envie de tourner les pages, qu'on ait envie de savoir ce qui va se passer. Et alors... je cherche toujours les bonheurs d'écriture. J'en ai de temps en temps, mais j'en ai pas tous les mots. Il y a des romanciers, enfin, ou des écrivains, qui ont un style tellement joli que... Regardez Modiano. C'est pas les histoires de Modiano.
Vous citez d'ailleurs dans ce livre.
Mais oui, parce que Modiano, moi, c'est un de mes auteurs préférés. On se moque de l'histoire, on s'immerge dans Modiano. C'est comme les Dunes Blanches, Modiano. Voilà, c'est pareil, sauf que vous pouvez en lire autant que vous voulez le même jour. Mais c'est... Vous êtes dedans, il y a une petite musique, hein, et puis on est bien. Et alors, si tu n'étais pas là, je dirais Gendarmeson, c'est pareil. Mais c'est pareil. C'est pareil. Ils n'ont pas besoin d'histoire, ces auteurs-là. Ils ont un truc. Moi, je raconte des histoires.
C'est quand même un animal sauvage, l'auteur. Parce que, et vous le dites dans ce livre, il passe quand même pas mal de temps tout seul. Donc, quand il sort de sa grotte avec son texte, il faut qu'il réapprenne à vivre socialement.
Ça, c'est plutôt à Lorraine de répondre. Non, parce qu'il y a des auteurs qui restent très sauvages, qui n'aiment pas tellement... qui n'aiment pas les médias, qui se cachent. On a publié cet auteur. D'ailleurs, le premier roman de la maison d'édition qu'on a publié s'appelle Méchamment Dimanche, écrit par Pierre Pelot, qui est un auteur vosgien. Et Pierre Pelot, qui déteste quitter ses Vosges natales, il est né à Saint-Maurice-sur-Moselle, il a rencontré à l'école sa future femme, il vit encore aujourd'hui, 76 ans plus tard, à Saint-Maurice-sur-Moselle, il explique que quand il arrive gare de l'Est, à Paris, il s'enrhume. Donc, c'est pour vous. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout la promotion, qui trouve des auteurs qui sont assez ermites, qui encore une fois, qui aiment peu la promotion, qui trouvent ça peut-être vulgaire, ou en tout cas, ils veulent pas mettre de l'énergie dans la promotion. Il y en a quand même beaucoup. Et c'est pas pour ça qu'ils sont de mauvais auteurs. Donc, il y a des auteurs ils vous remettent leur texte. Alors, ces auteurs-là, je dirais, ils sont tout à fait heureux de travailler sur le texte, mais là, ça reste quelque chose de très intime, à deux, un dialogue, mais qui, après, disparaissent et qui sont pas... qui n'aiment pas, par exemple... Maintenant, il y a beaucoup de salons du livre. Il y a presque tous les week-ends en France un salon, une ville qui accueille un certain nombre d'auteurs. On a des auteurs... Lorraine aime beaucoup ça, le fait depuis des années, a des lecteurs qui la suivent. Il y a des auteurs qui adorent ça, et il y en a d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a des auteurs qui sont sauvages et qui ne se forcent pas à devenir urbains, parce que ça ne leur correspond pas.
Et dans ce livre, vous en parlez, de ce rythme très singulier.
Oui, on a Modiano. Pour Modiano, qui n'aimait pas parler, alors qu'il sait si bien écrire. Oui, parce que nous sommes des ermites. En effet, la semaine, moi, pendant la semaine, je suis devant mon ordinateur, je suis avec mes amis de papier qui sont des personnages, qui n'existent pas du tout, mais qui sont aussi réels pour moi pendant un an que les vraies personnes de chair et de sang de ma vie. Et puis, en effet... On n'écrit pas pour soi, mais ce livre, un jour, va dehors et devient quelque chose de public. Et d'ailleurs, ce que j'adore, c'est quand, maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, et Facebook, et Insta, et Twitter, et tout ça, les lecteurs nous écrivent qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas parfois, ou bien qu'ils préfèrent l'un ou l'autre. Moi, ça me... Tu parlais d'Entre ciel et loup. Le nombre de lecteurs qui me disent « Ah, mais j'aime beaucoup vos livres. Mais alors, Entre ciel et loup, il était tellement extraordinaire. » Je me dis « Mais il n'était pas mieux que les autres. » Enfin, on parle, on se... Les week-ends, on se réveille. Moi, j'ai l'impression que le week-end, je sors de ma boîte, je rencontre des personnes. Et c'est merveilleux parce que j'ai l'impression de les aider. Je les aime, je leur suis disponible. Parce que c'est pas anodin de parler avec les lecteurs. Ils vous donnent un petit bout de leur âme, et nous, dans nos livres, on met un petit bout des nôtres. Et donc, il y a des chocs d'âme. Et puis, le reste du temps, on est tout seul parce que finalement, c'est ce qu'on aime. Parce que j'adore passer 6 mois sur une histoire dont je ne sais pas à la fin si Héloïse la prendra ou pas, et si elle va naître vraiment ou pas.
Pardon Sylvie, je vais poser une question à Lorraine parce que il y a ce phénomène qu'expliquent souvent les auteurs, c'est-à-dire que ils finissent le livre et les personnages, d'abord parce que il y a des personnages qui prennent une certaine ampleur et qui l'ont pas du tout anticipé, c'est-à-dire que au départ le plan prévoyait qu'il y ait 2 ou 3 personnages et un personnage secondaire, et puis tout d'un coup il y a un personnage secondaire qui peut tout à fait venir en premier plan de manière assez inattendue pour l'auteur. Donc ça, c'est toujours assez fascinant d'entendre ce type de... Et c'est assez courant. Et l'auteur vous explique souvent qu'il est complètement habité par ses personnages quand il a fini son livre, et que quelquefois, certains personnages mettent du temps à partir, et que tant qu'ils ont pas... qu'ils sont encore présents très présent, c'est difficile de s'embarquer dans une autre histoire et de d'être habité par encore d'autres, parce que la place est prise, quoi. Et je voulais savoir quel était s'il y avait 1 ou 2 personnages que tu avais eu du mal à quitter et qui t'avaient accompagné plus longtemps que les autres.
Dans tous mes livres?
Oui.
Non, mais en effet, ce matin, je t'ai parlé de mon prochain livre et j'avais envie de commencer à partir du moment où on a rendu son livre, il y a un travail de deuil de papier qui se fait. C'est-à-dire qu'on a fait, tout ce qu'on pouvait. J'ai fait tout ce que je pouvais pour aller simple, pour la joie. Et maintenant, leur aller simple, c'est le leur et c'est plus le mien. Je ne peux plus rien faire d'autre. Jusqu'au moment où il sortira, qui est le 3 avril. Donc, entre les deux, je me suis dit, je vais commencer le livre d'après. J'ai commencé à imaginer mes personnages, j'étais bien. Puis, j'arrivais pas à dormir. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. Que je ne pouvais pas me lancer dans les nouveaux avant d'avoir lâché cela. Et je n'ai pas lâché cela puisqu'ils ne sont pas arrivés en librairie. Ils ne sont pas arrivés jusqu'à vous. Ils ne sont pas nés, donc on ne peut pas en faire deux à la fois. Et donc, j'ai arrêté. Je me suis dit, je vais reprendre vraiment en mai, quand j'aurai un peu, mais je n'ai pas assez de mains.
Ah oui, c'est ça. Demain, je pense que tu ne les as pas encore complètement lâchés. Ils sont...
Et vous, Héloïse, est-ce qu'il y a des personnages que vous avez du mal à lâcher dans ce que vous lisez des auteurs de votre maison ?
Personnages que j'ai du mal à lâcher... Oui, ça doit quand même arriver, mais c'est plutôt des livres qui, effectivement, qui ne me quittent pas, c'est sûr. Alors, ils se superposent, c'est un peu comme des airs de musique. On peut tout d'un coup, on vous fredonne, et puis toute la chanson revient. Ben, c'est la même chose. Il y a effectivement des livres qui ne me quitteront jamais. C'est des émotions, des traces, des. C'est certain. Et il y a dans les livres de Lorraine, mais comme tous les lecteurs, moi, il y en a certains qui m'ont plus touché que d'autres, même si je les aime tous et qui sont tous très réussis. Mais il y en a certains. J'ai un petit quand les lectrices dans les salons me disent mais par lequel je commence et qu'est-ce que vous me conseillez. Alors j'ai toujours mais
c'est lequel ?
Ben non, il y en a pas. Il y en a pas un. Je pense que l'aller simple pour la joie va monter sur le podium là.
Et alors justement, mais puisque vous parlez du prochain, il en est où ce catalogue pour fêter ses 20 ans ?
Écoutez, ce catalogue se construit, parce que ce qui est absolument sidérant et assez euphorisant, je dois dire, c'est que donc ça fait 20 ans, mais j'ai vraiment l'impression que ça a commencé hier, et surtout la passion s'est pas émoussée et ce qu'on raconter, c'est-à-dire que toutes les difficultés de ce métier sont aussi participent de son plaisir. C'est-à-dire que aucune lassitude, rien de banal, rien n'est jamais. Donc c'est assez assez extraordinaire, quoi, que de pouvoir d'abord lire quand même beaucoup. Et à chaque fois, c'est un plaisir renouvelé et génial. Je veux dire que parce que nous, les éditeurs, on a une chance que les lecteurs, vous n'avez pas. C'est-à-dire qu'on reçoit des textes. On a effectivement un titre, qui n'est pas forcément le titre définitif, mais on a un titre, le nom de l'auteur. Et on ne sait rien de l'histoire. Donc, on s'ouvre à ce texte. Et puis, la manière dont il va commencer à vous habiter est très différente. Il y a des livres qui vont monter tout doucement. Petite musique très, très discrète. On a même l'impression qu'on est assez extérieur au livre et qu'il vous plaît pas tant que ça. Et puis, au bout de 50 pages, au bout de 70 pages, vous vous dites, mais si, je suis complètement... Ça y est, il m'ensorcelle. Et ce petit refrain-là, ça y est, je suis dans le livre. Puis il y a des livres qui vous attrapent, qui vous cueillent dès la première page. Et puis, il y a toutes sortes de manières. Et surtout, rien n'est plus fabuleux, je dirais d'une certaine façon, que quand j'ai débuté certains livres qui m'embarquaient dans des histoires dont j'avais... Moi, ça ne m'intéressait pas. C'est-à-dire que là, on va publier à la rentrée le livre de Jean Michelin, qui est un auteur qu'on a déjà publié, qu'on avait publié il y a 3 ans, « Ceux qui restent ». Et ce roman, c'est une histoire de groupe de rock aux États-Unis. moi, le rock et les histoires de musique, j'ai vraiment ouvert son livre parce que j'avais adoré le précédent et en me disant qu'il fallait absolument que je donne une réponse à l'auteur et que je réagisse, que je ne pouvais plus pas justement le laisser dans cette inconfortable incertitude. Mais je me suis forcée parce que je me suis dit tu vas pas aimer ce livre, tu vas rester complètement extérieur et hermétique et... Et puis, j'ai été mais complètement cuit. Et ce livre, je vous en parle, j'ai les odeurs de ces garages, du fin fond de l'Amérique, de ces marges, de ces petits blancs américains. Je sens, j'entends, c'est extraordinaire. Et ça, c'est pour ça, ce métier, il est... d'ailleurs, à vrai dire, ce n'est pas du tout un métier. C'est impropre de dire que c'est un métier. C'est un art de vivre. Moi, je ne travaille pas. Je vis l'édition. Ça ne me quitte pas. J'y pense en continu. Et je vis... Voilà. C'est un mode de vie, un art de vivre.
Quelle a été votre attention particulière dans justement les livres qui vont sortir cette année pour les 20 ans de la maison Héloïse d'Ormesson ?
Alors, on a essayé d'une part de publier un auteur phare de la maison tous les mois pour avoir une programmation particulièrement éclatante. On va rééditer certains livres épuisés du catalogue. Par exemple, je vous ai parlé de Pierre Pelot, Méchamment Dimanche, qu'on avait publié donc en 2005, en mars 2005, qu'on va rééditer parce qu'il est épuisé en poche et en grand format depuis presque 10 ans, et qui est un magnifique roman d'apprentissage, une histoire d'enfance dans les Vosges. On y retourne. Nous allons rééditer, je ne sais pas si c'était en mars ou en avril, justement, Entre ciel et loup, qui est disponible en poche, mais qui était épuisé en grand format depuis quelques années, et qui est quand même un des titres, en tout cas le premier que nous avons, le premier roman que nous avons publié il y a maintenant presque 10 ans. Donc on va aussi rythmer l'année avec ces rééditions en tirage limité et éditions un peu luxe. Et on fait ce tour de France des librairies qu'on a évidemment tout à fait naturellement débuté chez Mola, parce que je pense que la première librairie française, c'est Mola, et en tout cas c'est la librairie qui est très très chère à notre cœur, et c'était inconcevable de ne pas débuter cette tournée de l'Hexagone sans cette visite à Bordeaux chez Mola.
Je crois que pour Mola, il n'était pas à question non plus que vous n'y passiez pas. Pour finir, est-ce qu'il y a toutes les deux quelque chose finalement que vous trouvez fondamentalement différent? Voilà, sur ces 20 ans, quelque chose qui a changé votre métier, quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être, je ne sais pas, une autre façon de le faire que quand vous avez commencé.
Alors, de mon point de vue, qui n'est pas du tout le même que toi, quand j'ai commencé, j'avais des tas d'amis dans des tas d'éditions. Non, mais je les ai encore. Mais qui étaient tous contents de là où ils étaient. Voilà. Et maintenant, j'ai des tas d'amis qui écrivaient des livres super, qui sont plus publiés, qui ne sont plus publiés, qui ne trouvent plus d'éditeurs, et parce que déjà il y a trop de livres publiés, et puis les mêmes éditeurs peuvent pas publier plein d'eux. Et moi, j'ai plein de gens qui me disent « Mais t'en as de la chance d'être chez Héloïse d'Ormesson. » Alors, je reste à ma place, je suis toute contente. Je me dis « C'est bien, c'est les 20 ans, je continue, je suis là, c'est bien. » Et je me rends compte que c'est, en tout cas pour un auteur, de plus en plus difficile qu'on soit primo-romancier, premier livre, ou bien qu'on ait des tas de livres derrière soi. Comme c'est difficile pour les éditeurs de vendre leurs livres, parce qu'il y a moins de lecteurs, c'est difficile pour les auteurs d'être publiés. Or, c'est notre rêve, c'est notre raison d'être, c'est notre vie. Donc, je suis toute contente d'être là. C'est les 20 ans, j'y suis, j'y reste.
Il n'y a aucun problème, je crois que tu peux, dans 20 ans, dans 20 ans, tu publieras toujours. Eh bien, oui, tu as raison. C'est-à-dire que ce qui a changé, c'est la prescription. Ce qui est pour nous, pour nous tous, comment découvrez-vous un livre via votre libraire, où vous avez la chance d'être, j'imagine, bordelais, ou en tout cas d'habiter pas trop loin de Bordeaux, et de pouvoir venir chez Mola. Et Mola, c'est assez exceptionnel, parce que vous allez tout trouver, d'une part, mais également être conseillé. Chacun des libraires présents dans cette librairie est extraordinaire, et ils savent parfaitement mettre en lumière et en valeur tous les textes. La librairie est belle. Vous avez, dès que vous posez le regard sur un espace, vous voyez un livre qui retient votre attention. Ils savent vraiment théâtraliser, scénariser les textes. Bon, toutes les librairies ne sont pas comme ça. Et tout le monde n'a pas un libraire de confiance, de référence à côté de chez lui. Donc, il faut d'autres moyens de prescription. Il y avait la presse écrite. Mais je ne sais pas, dans cette pièce, si beaucoup d'entre vous lisent encore la presse écrite. Je ne parle pas presse papier, hein, sur digital même. Mais de moins en moins de gens lisent la presse écrite. Donc, quand on a des papiers, ça ne sert plus beaucoup. Donc, c'est pas parce qu'on obtient de la presse sur un livre que le livre va se vendre et va trouver son lectorat. Parce qu'encore une fois, c'est pas les chroniques livres qui sont pas lues, c'est le journal tout court qui n'est pas lu. Alors que je me souviens, quand on a créé la maison d'édition, un éditeur à l'époque, Gallmeister, Le Tripode, enfin il y avait pas mal de maisons qui n'existaient pas encore, mais il y avait les éditions de L'Olivier qui, sur la littérature étrangère, était une maison extraordinaire. Et je me souviens, ils publiaient un certain nombre de textes et ils avaient l'ouverture du Monde, l'ouverture de l'Obs, l'ouverture de Libé, et leur livre était lancé. Et ils en vendaient, quoi qu'il arrive, 5 000, 10 000 exemplaires. Aujourd'hui, qui va avoir lu ces trois journaux que je viens de citer? Même moi, je ne les ai pas lus. Et la dernière fois que j'ai accueilli, parce que les éditions et les éditeurs me sont maintenant, ont rejoint un groupe qui est le groupe Editis, et régulièrement, enfin, il y a énormément de stagiaires qui arrivent dans le groupe, et donc on leur organise une journée de sensibilisation et de formation, et chacun d'entre nous, on les accueille et on leur présente un certain nombre de choses. Et la dernière fois, j'étais donc l'éditrice qui les a accueillis, et je leur parlais de ce problème de prescription, et je leur ai dit, j'avais en face de moi une centaine de jeunes entre 21 et je sais pas, 26 ans, enfin bon, l'âge importe peu, mais donc ils étaient tous stagiaires dans l'édition, stagiaires ou apprentis. Je leur ai demandé qui lit Le Monde dans cette salle. Pas une main ne s'est levée. Donc ça en dit long. Alors vous me direz, il y a les réseaux sociaux. Ça n'a pas remplacé la presse écrite. Ça aide un peu, évidemment, quand les blogueurs soutiennent un livre et qu'on voit que ça frémit et qu'il y a même une effervescence sur les réseaux. Bien sûr, ça nous fait très plaisir parce que ça prouve que le choix était peut-être bon et que ces blogueurs aiment ce livre. Ça fait plaisir évidemment à l'auteur. Ça crée ce qu'on appelle aujourd'hui un petit bruit, mais ça suffit pas. Alors, ça fait vendre quelques livres, mais pas tant que ça. Alors, qu'est-ce qui reste ? Il reste la radio et la télévision, mais il y a beaucoup d'appelés, très, 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 très peu d'élus. Donc, c'est très difficile. Donc, à cause de ces... C'est pas tellement... Il y a un petit peu moins de lecteurs, effectivement. Alors, on ne va pas rentrer dans... Là, on n'a plus le temps. Mais c'est pas tant la disparition des lecteurs que le fait que les lecteurs sont un peu désorientés, ne savent plus quoi lire. Et donc, vous allez tous lire les mêmes livres qui sont sur la liste des best-sellers. Vous allez tous lire Kamel Daoud, Gaël Fay à la rentrée littéraire. Et aujourd'hui, même un Abel Quentin, qui est un auteur qui a déjà... et là, je cite à dessein des auteurs qui ne sont pas dans la maison. Vous allez... ça devient plus compliqué parce que voilà, c'est si vous n'avez pas un libraire que vous connaissez, qui connaît vos goûts et qui vous recommande des livres et qui va vous recommander des livres dont vous n'avez pas nécessairement entendu parler, mais vous lui faites confiance. Donc vous allez découvrir des talents et être ébloui par toutes ces lectures. Mais si vous n'avez pas quelqu'un qui vous recommande un livre, comment dépenser les fameux 20 euros sur un roman français, c'est très difficile. Je comprends bien que, mais c'est ça le principe, notre principale difficulté, et c'est ça ce qui a changé. Parce qu'en 20 ans, effectivement, je vois déjà quand je ne serait-ce que quand je regarde le service de presse de nos livres, justement Pierre Pelot, puisqu'on le réédite, je regardais toute la presse, le nombre de journaux qui ont fermé, de journalistes qui ne le sont plus, parce qu'ils ont pris leur retraite, certes, mais pas seulement. C'est vrai que le monde change et il faut s'adapter. Alors bon, cela dit, on a aussi, c'est vrai que maintenant, pour faire des lancements, on a des plans marketing, il y a toute une dimension commerciale, effectivement, qui est beaucoup plus importante. Mais c'est aussi, c'est autre chose, mais c'est aussi très amusant à imaginer. Je veux dire qu'on s'est beaucoup, beaucoup amusé à réfléchir au lancement d'aller simple pour la joie. Je pense que
en soi un programme déjà.
Ah oui, c'est un programme, mais c'est faut réfléchir à quel moment on fait telle campagne d'affichage dans les gares. Est-ce qu'on fait de la publicité, dans quel support, à la radio, pas à la radio, à la presse. Bon, c'est des questions qu'on avait moins à se poser autrefois et qu'on se pose aujourd'hui. C'est d'autres défis.
Mais
c'est
enjeux.
D'autres enjeux, d'autres défis, mais c'est toujours aussi passionnant.
En tout cas, on vous remercie toutes les deux d'être venues nous raconter un peu ce rapport entre l'auteur et l'éditeur. Et on ne peut vous souhaiter que le meilleur pour les 20 ans à venir, toutes les deux, à la fois en écriture et en édition. Merci encore.
Merci.